Dès que je les aperçus pressés autour de moi, et ne respirant que l'audace, braves amis, m'écriai-je, vous dont le sort a trahi la valeur, n'écoutons qu'un beau désespoir. Vous voyez dans quel abîme nous a plongé la fortune. Les dieux protecteurs de Pergame ont tous abandonné leurs temples et déserté leurs autels. Vous défendez en vain des ruines fumantes. Mourons, mais le fer à la main, mais en écrasant nos vainqueurs. Le salut des vaincus est de n'en point espérer. Ces paroles redoublent leur fureur. Tels que des loups avides s'élancent pleins de rage durant les noirs frimas, lorsqu'une faim dévorante les chasse de leurs repères, et que leurs petits délaissés demandent en hurlant leur pâture, tels nous volons à travers les javelots, à travers la mêlée, tels affrontant mille trépas, nous perçons, en courant, jusqu'au centre de la ville. La sombre nuit nous couvre de ses ailes ténébreuses, nuit de sang, nuit de carnage. Oh, quel récit pourrait en retracer les massacres? Quels yeux auraient assez de larmes pour en pleurer les malheurs? Elle tombe, cette antique cité, longtemps reine de l'Asie. Des milliers de cadavres jonchent les chemins publics et les demeures des hommes et les parvis des dieux. Le Troyen, toutefois, ne mord pas seul la poussière. Souvent, la vertu se ranime dans le cœur des vaincus, et les vainqueurs, à leur tour, vont mesurer la terre. Partout un horrible deuil, partout l'épouvante et la mort, sous 100 formes hideuses. Le premier des Grecs qui se présente à nous est Androgé, guidant un corps nombreux. L'imprudent croit voir des guerriers amis, et ses reproches officieux aiguillonnent ainsi notre ardeur. Hâtez-vous, enfants d'Argos, quelle indolente mollesse ralentit votre course. Déjà tant d'autres s'en retournent, chargés des dépouilles d'Ilion, et vous descendez seulement de vos vaisseaux? Il dit. Et dans l'instant, nos réponses équivoques l'avertissent qu'il s'est jeté dans les rangs ennemis. Frappé de stupeur, il recule et se tait. Ainsi, le voyageur, dont le pied a foulé par mégarde un serpent caché sous des ronces, rebrousse tout à coup d'effroi à l'aspect du monstre qui se dresse en sifflant et gonfle son cou bleuâtre. Ainsi fuyait Androgé, pâle et tremblante à notre abord. Nous chargeons sa troupe incertaine, et nos armes serrées l'enfoncent de toutes parts. L'ignorance des lieux, la surprise, la terreur, tout les livre à nos coups. La fortune sourit à ce premier effort. Fier d'un succès qui flatte son audace, « Compagnon, dit Coreb, le sort nous montre le chemin de la victoire, c'est à nous de le suivre. Changeons de bouclier, empruntons aux vaincus leur parure étrangère. Ruse ou valeur, qu'importe quand il s'agit de triompher. Nos ennemis eux-mêmes nous fourniront des armes. » À ces mots, il orne sa tête du casque à l'ondoyante aigrette qui couvrait le front d'Androgé. Il suspend à son bras le riche bouclier du héros, et l'épée d'un Grec ceint le flanc d'un Troyen. Bientôt Riphée, bientôt Dimas, et tous ceux qui me suivent s'empressent d'imiter Coreb. Chacun se décore de son récent trophée. Ainsi mêlés parmi les Grecs, nous marchons, invoquant des dieux qui n'étaient pas pour nous. Nombre d'exploits signalent notre courage dans l'épaisseur des ombres. Nombre d'Argiens, immolés sous nos coups, vont peupler les enfers. Les uns, emportés par la peur, ont regagné leur nef et cherché l'abri du brivage. D'autres, dans leur honteuse frayeur, gravissent de nouveau les flancs escarpés du colosse et rentrent dans le sein qui les avait vomis. Mais, hélas, qui peut compter sur un bonheur durable quand le ciel est contraire? Soudain paraît, ô douleur, la fille de Priam, l'infortunée Cassandre, arrachée, les cheveux épars, du sanctuaire de Minerve, élevant inutilement aux cieux ses yeux enflammés de courroux, ses yeux, car des fers chargeaient ses mains virginales. À ce spectacle, Coreb, hors de lui-même, ne peut contenir ses transports. Il se précipite au milieu des lâches ravisseurs. Il défie leur rage et la mort. Sa fougue nous entraîne, et notre furie se fait jour dans l'épais bataillon. Là commencent nos misères. Abusés par nos armures nouvelles et nos panaches mensongers, les Troyens, du haut du temple, font pleuvoir sur nos têtes une grêle de traits et font dans nos rangs un affreux carnage. En même temps, les Grecs, frémissant de leur défaite et brûlant de ressaisir leurs captives, les Grecs se rallient et nous enveloppent de toutes parts. Sur nous fondent à la fois l'ardent Ajax et l'un et l'autre Atride et l'innombrable essaim des Dolopes. Tels parfois soufflant la tempête dans leur course opposée, le Zéphyr et l'Austère et le Russe enfant de l'aurore font retentir les airs de leurs chocs bruyants. Les forêts ébranlées mugissent. Neptune, de son trident, bat les ondes écumantes et bouleverse les mers dans leurs profonds abîmes. Ceux mêmes dont nos ruses triomphèrent à la faveur des ombres et que la crainte dispersa devant nous dans la nuit ténébreuse, reparaissent à l'improviste. Ils reconnaissent bientôt l'imposture de nos armes et l'accent d'un phrygien sous le casque d'un grec. Le nombre aussitôt nous accable. Coreb, avant tous, atteint par Pénélée, succombe au pied des autels de la redoutable Pallas. Riphée le suit au sombre bord, Riphée le plus juste, le plus religieux des Troyens. Sa vertu ne trouva pas grâce devant les immortels. Upanis et Dumas meurent percés par leurs concitoyens. Et toi, Panthée, tu chancelles toi-même. Ni ton respect envers les dieux, ni la tiare d'Apollon ne peuvent te soustraire au trépas. Cendre d'Ilion, bûcher funèbre de ses enfants, vous le savez, dans ce grand désastre, je n'évitais pour sa défense ni les traits conjurés des Grecs, ni les hasards des combats, et si le destin l'eût permis, j'emportais en tombant la gloire de tomber avec la patrie. Arrachés de ce lieu funeste, nous le quittons en gémissant, Iphitus, Pélias et moi. Iphitus, appesanti par le fardeau des ans, Pélias, blessé par Ulysse et se traînant à peine. Tout à coup, des cris redoublés nous appellent au palais de Priam. C'est là surtout que Mars déploie toutes ses fureurs. On dirait que la guerre n'a point d'autre théâtre et que la mort craint de frapper ailleurs. Tant les phalanges se heurtent avec acharnement, tant l'auguste enceinte est livrée à d'horribles assauts. Déjà les portes s'ébranlent au cou du bélier. Les échelles dressées fléchissent sous le poids des assaillants. Et les Grecs, suspendus aux murs qu'ils gravissent, opposent d'une main au dard les reins de leurs boucliers, tandis que de l'autre, ils s'attachent au créneau. Les Troyens, de leur côté, s'arment des ruines même de leurs tours démolies, de leurs toits embrasés, dernière ressource du désespoir qui lutte contre la mort. Ils font rouler, du fait, les lambris, les poutres dorées, somptueux ornements de la demeure des rois. D'autres veillent, l'épée nue, aux postes inférieurs. Leur vaillante élite doit en disputer les approches. Mon courage alors se rallume. Je cours défendre l'asile du monarque, soutenir les braves en péril et ranimer les vaincus. Derrière le palais était une porte secrète, un passage ignoré, dont les détours conduisaient du pavillon d'Hector à celui de Priam. Issue cachée, que l'ennemi n'avait point aperçue, et qui, dans des jours plus heureux, vit souvent la triste Andromaque pénétrer sans pompe vers sa noble famille, et mener le jeune Astyanax à son royal aïeul. C'est par cette route inconnue que j'aborde enfin les hauteurs, d'où les infortunés Troyens lançaient leurs traits impuissants. Là, dominait, assise au bord du comble, une tour dont la cime altière s'élevait jusqu'aux nues, et d'où l'œil aimait à découvrir l'immensité de Troie, et la flotte et le camp des Grecs. Armés de haches et de leviers, nous en attaquons les appuis, déjà minés par l'âge. La masse est arrachée de ses vieux fondements. On la pousse, et s'écroulant tout à coup, avec un horrible fracas, elle écrase au loin dans sa chute des bataillons entiers. D'autres à l'instant les remplacent, et cependant les javelots et les pierres sifflant de toutes parts s'entrechoquent dans les airs. Au pied même du vestibule, et déjà touchant les degrés, Pyrrhus, bouillant d'ardeur, fait luire les éclairs de sa lance et resplendit de feu sous son armure d'airain. Tel rayonne, à l'éclat du jour, un serpent réchauffé par les sucs du printemps. Naguère durant l'âpre froidure, il dormait engourdi sous la terre. Maintenant, fier de sa peau nouvelle et brillant de jeunesse, tantôt il roule en cercle azuré ses mobiles anneaux, tantôt, levant son cou superbe, il se dresse au soleil et darde, en triple aiguillon, sa langue meurtrière. Près du fougueux et acide, combattent et Périphase à la taille menaçante et l'écuyer d'Achille, Automédon, jadis conducteur des coursiers du héros, et les nombreuses cohortes de Scuros. Leur foule presse à l'envi l'attaque du péristyle et fait voler jusqu'au toit les brandons enflammés. Lui-même à leur tête, Pyrrhus, saisissant une hache énorme, frappe à coups redoublés la porte qui gémit et fait trembler sur leurs gonds les pivots d'airain. Déjà le chêne cède au tranchant du fer. Les ais, robustes, crient et se rompent, et dans leur vaste épaisseur s'ouvre une brèche immense. À travers, on découvre les profondeurs du palais et ses longues galeries où plonge l'œil étonné. On découvre ses retraites augustes, où siégeait Priam, où tant de rois habitèrent, et sur le seuil apparaissent les rangs armés qui le protègent. Mais déjà l'intérieur n'offre partout que longs gémissements, que lugubres sanglots. Les voûtes retentissent au loin des hurlements des femmes. Les cris s'élèvent jusqu'aux cieux. On voit les mères éperdues errer, les cheveux épars, sous l'or des lambris spacieux, embrasser les colonnes et les couvrir de leurs derniers baisers. Nouvel Achille, Pyrrhus achève son ouvrage. Ni garde ni barrière ne peuvent soutenir son effort. La porte chancelle sous le bélier qui tonne. Et, renversée de ses pivots antiques, elle tombe à grand bruit. La violence triomphe. Les retranchements sont forcés. le vainqueur se fraye un passage sur les cadavres des vaincus, et des torrents de Grecs se précipitent de toutes parts. Avec moins de furie se déborde un fleuve écumant, lorsqu'il a rompu ses digues et surmonté les obstacles qui s'opposaient à ses ravages. Avec moins de fracas roule à travers les campagnes son onde amoncelée, entraînant bergers, troupeaux, étables dans son cours vagabond. J'ai vu dans nos parvis Épirus et les deux Atrides tout fumant de carnage. J'ai vu la malheureuse Hécube et 100 filles de rois livrées à d'indignes opprobres. J'ai vu Priam au pied des autels, Priam arrosé de son sang les feux consacrés par lui-même. Ces 50 couches nuptiales, brillant espoir d'une nombreuse postérité, ces riches plafonds que décorait l'or de l'Asie et les dépouilles étrangères, tout n'est plus que décombre. Le glaive détruit ce qu'épargna la flamme. Peut-être désirez-vous apprendre, ô reine, quels furent les derniers moments de Priam. Voyant ses remparts en poudre, ses demeures envahies, et les Grecs au sein même de ses dieux domestiques, le vieux monarque saisit ses armes, depuis longtemps oisives. Il en charge en vain ses épaules tremblantes sous le fait des ans, et, ceint d'un fer inutile, veut chercher le trépas dans les plus épais bataillons. Au centre du palais, sous la voûte des cieux, s'élevait un autel immense. Tout près, un vieux laurier, s'inclinant sur l'autel, en couvrait de son ombre les divinités tutélaires. Là, semblables à de timides colombes que poursuit la noire tempête, Hécube et ses filles se pressaient, tout en pleurs, autour du saint monument, et serraient dans leurs bras les lares paternelles qui ne pourront les garantir. À l'aspect de Priam, courbé sous l'armure jadis légère à sa jeunesse, « Ô funeste vertige, malheureux époux, dit Hécube, pourquoi ces armes impuissantes? Où courez-vous, hélas? Ce n'est point un pareil secours, ce n'est point un tel défenseur que demande ce fatal moment. Non, quand il renaîtrait aujourd'hui, mon Hector lui-même ne nous sauverait pas. Acceptez ces lieux pour refuge, cet autel doit nous protéger tous, ou nous voir mourir tous ensemble. » À ces mots, elle entraîne l'auguste vieillard et le fait asseoir auprès d'elle sous ses abris religieux. Cependant, échappé des mains de Pyrrhus, Polyte, un des fils de Priam, fuyait à travers une grêle de flèches, à travers des flots d'ennemis, et se traînait, tout sanglant, le long des portiques déserts, le long des cours abandonnés. Pyrrhus le poursuit, l'œil étincelant, et la lance en arrêt. Déjà son bras se lève, déjà son dard va le percer. Mais enfin, près de toucher l'autel qu'entourent ses parents éperdus, l'infortuné tombe auprès d'eux, et noyé dans son sang, il expire à leurs pieds. Alors Priam, sous la faux même de la mort, ne peut contenir sa juste colère. Elle éclate en ces mots. « Barbare, applaudis-toi de ton infâme triomphe. Ah, s'il est au ciel des dieux justes qui vengent la nature outragée, puisse-t-il mesurer ta peine à ton crime et payer ton forfait de son digne salaire? As-tu bien pu, monstre, rendre mes yeux témoins du meurtre de mon fils et souiller de cet affreux spectacle et regarde un père. Non, tu n'es pas le fils d'Achille. Cet Achille, ennemi généreux, ne vit pas sans pitié Priam à ses genoux. Il respecta les larmes d'un suppliant et les droits du malheur. Il rendit à la tombe la dépouille glacée d'Hector et me renvoya libre au milieu de mes sujets. Tel s'indignait le vieux roi. Et cependant, sa main débile décoche un trait languissant que l'airain repousse à l'heure même et qui meurt suspendu au bouclier qu'il effleure. Mais Pyrrhus. Eh bien, va, messager sinistre, va porter ces nouvelles au héros dont je tiens le jour. N'oublie pas de lui peindre mes honteux exploits. Dis-lui que Néoptolème dégénère. En attendant, meurs. À ces mots, il traîne au pied même des autels le monarque tremblant, dont les pas chancellent sur le marbre inondé du sang de son fils. Là, saisissant d'une main sa victime par ses cheveux blanchis, le cruel fait briller de l'autre une épée étincelante et la plonge tout entière dans le flanc du vieillard. Ainsi se terminèrent les destinées de Priam. Ainsi périt lui-même au milieu d'Ilion en feu et sous ses forts écroulés, ce monarque, puissant arbitre de l'Asie, autrefois maître de tant de peuples et de tant de contrées. Son corps, séparé de sa tête, gît sans gloire sur l'arène. Ce n'est plus qu'un tronc inutile, une masse informe et sans nom.